Le jour de la Pentecôte, c'est aujourd'hui dans le calendrier. Mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé historiquement. Dans les Actes, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? » On va s'arrêter là dans la lecture. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Une première chose à relever, c'est que pour la venue du Saint-Esprit, l'embryon d'Église, en quelque sorte, était réunis. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les apôtres et ceux qui croyaient avec eux avaient obéi à l'ordre du Seigneur de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ils ne s'étaient pas, une fois Jésus remonté au ciel, dispersés. Ils étaient dans l'attente. Ils savaient que le Seigneur avait promis et ils voulaient vivre cet événement de la grâce toute puissante de Dieu qui se manifesterait au milieu d'eux. Et ainsi, c'est l'Église qui est constituée ce jour-là, le Saint-Esprit qui vient et qui se manifeste à tous par ce bruit, mais aussi à chacun individuellement. L'Esprit se pose sur chacun d'eux à travers la manifestation de ces langues de feu qui viennent se poser sur chacun des participants. Le Saint-Esprit donne l'unité de l'Église et accorde à chacun sa présence, visite chacun de ceux qu'il a rachetés. Si le Saint-Esprit peut être donné ce jour-là, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour ceux qu'il sauve, a donné sa vie pour les pécheurs, parce que le péché a été effacé de devant la face de Dieu et que tous ceux qui croient sont purifiés par le sang de l'agneau. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut venir, peut être donné. C'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est là à l'œuvre et qui permet la venue du Saint-Esprit, qui vient parachever l'œuvre donc de la grâce de Dieu envers ceux qui croient. Le Saint-Esprit est répandu et il se produit alors le phénomène inverse de ce qui se produit initialement pour l'humanité lorsqu'elle était à Babel. Il y avait à Babel une seule humanité à ce moment-là qui a voulu quoi faire, qui a voulu s'élever jusqu'à Dieu, se donner un nom. Et cette humanité-là eh bien, elle a été jugée par le Seigneur et le Seigneur a confondu leur langage. Et ils ont dû se disperser sur la face de la terre, ne se comprenant plus. Eh bien, le jour de la Pentecôte, c'est l'inverse. Le Seigneur réunit à Jérusalem ceux qui sont dispersés. Jésus avait dit qu'il donnerait sa vie pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Eh bien, ce jour-là, ils sont rassemblés. Et le Seigneur leur donne de comprendre le même langage, de comprendre chacun dans leur langue le message de la grâce de Dieu, le message des louanges du Seigneur. Car que font-ils ? Ils proclament les merveilles de Dieu. C'est un temps de louange. Un temps où l'œuvre de Dieu est magnifiée par la bouche de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et tous ceux qui dans le monde reçoivent le Saint-Esprit, eh bien, entrent dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration de l'œuvre accomplie par notre Seigneur pour notre salut. Et alors, c'est le commencement de la véritable joie pour ceux qui sont sauvés. Je dirais que on peut définir la Pentecôte comme le jour où la joie de Dieu a été répandue dans le cœur des croyants. Ce que nous devons comprendre au sujet de la joie, c'est qu'elle est d'abord en Dieu. Elle procède des sentiments de Dieu lui-même. Dans l'Évangile, Jésus évoque courtement sa joie. Chapitre 15, l'Évangile selon Jean, le verset 11. Je vous ai dit ces choses au sujet d'être attaché à son amour. C'est tout le chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ou complète. Ma joie, dit Jésus. Jésus veut nous partager sa joie. Il le confirme dans la prière à son Père avant de quitter ce monde. C'est au chapitre 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. La joie de Jésus. Tout au long de sa vie terrestre et de son ministère, le Fils de Dieu était donc pénétré d'une joie qui lui était propre, celle d'introduire dans le monde la sagesse toute puissante de son Père. Nous le voyons dans l'évangile de Luc, à un moment donné, chapitre 10, verset 21, « À cet instant, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, ô Père du Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » La sagesse de Dieu. Cela a réjoui le cœur de Jésus à ce moment-là. Alors si le Seigneur a pu révéler les choses magnifiques de son Père aux petits-enfants, Ça veut dire qu'elles sont accessibles à tous et sont accessibles à chacun, chacune d'entre vous, ces choses, à une condition, c'est que vous ne vous croyiez pas sage et intelligent à vos propres yeux. Si vous vous confiez dans votre propre sagesse, dans votre propre intelligence, alors vous passerez à côté de ce que Dieu le Père veut vous révéler, de sa sagesse et de son amour à lui. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, venait-il d'indiquer à ses disciples avant de se réjouir par le Saint-Esprit. Il y a un plan divin qui est source de joie pour nous. Sa réalisation était la joie du Fils. On peut dire vraiment que Jésus avait comme joie dans son cœur de nous ouvrir les sources du salut. J'ai lu dans le prophète Ésaïe que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et Jésus était là pour ça, pour nous rendre accessibles les sources du salut. Et par sa patience, sa douceur, sa compassion, ses souffrances et sa mort sacrificielle, il a ouvert le chemin. Il nous permet d'accéder aux sources du salut. Il a déclenché, on peut dire, les sources du salut. Certaines sources sont souterraines, sont cachées pendant un certain temps, et puis à un moment donné, elles jaillissent et on peut s'y abreuver. Eh bien, c'était le moment, la venue de Jésus, d'ouvrir, d'ouvrir la terre pour que les sources du salut en jaillissent. Pour entrer nous-mêmes dans la joie, il nous faut comprendre que la joie est un sentiment divin qui est attaché à son amour pour nous. Dieu ne se réjouit de rien d'autre que de nous aimer, nous, son peuple, ses enfants qu'il rachète. Zophonie. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Avant de se manifester extérieurement, cette joie se produit à l'intérieur, et parce qu'elle est si forte et qu'elle fait une telle pression dans le cœur, elle finit par se manifester au dehors. Mais Dieu est tout entier joyeux de contempler ses enfants et de leur manifester son amour. Plusieurs passages de l'Écriture l'attestent, dont par exemple Ésaïe chapitre 62 verset 5 « Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître, que vous devez savoir. Dieu se réjouit en vous. Dieu se réjouit de pouvoir vous communiquer son amour, de pouvoir vous transmettre le salut qu'il a préparé pour vous. C'est ce qui fait sa joie. Dans chapitre 65 du même prophète, nous allons lire les versets 17 à 19. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Non seulement à Jérusalem il y aura de la joie, mais dans le cœur de Dieu il y aura de la joie. Dieu pourra se réjouir en son peuple. Et c'est bien par un retournement complet des mauvais sentiments humains que Dieu triomphe dans la joie. Car le point de départ, ce n'est pas que les hommes soient un sujet de joie pour le Seigneur, au contraire. C'est très, très bien exprimé par le prophète Jérémie au chapitre 33, les versets 8 et 9. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Ça, c'est ce que les hommes avait créé. Mais la puissance de l'amour de Dieu est capable de changer toutes ces mauvaises réactions des hommes envers Dieu pour que vienne la joie dans le cœur de Dieu et la joie parmi les hommes. Lorsque Dieu veut s'approcher de nous, il ne trouve pas des cœurs bien disposés. Au contraire, il trouve plutôt des cœurs résistants et nous l'offensons. L'être humain est en révolte contre Dieu dans son âme, dans son cœur. Ça s'est inscrit en lui dès le premier péché de notre ancêtre, de notre père à tous, Adam. Et lorsque Dieu vient vers nous, il ne nous trouve pas bien disposés, en fait. Il nous trouve avec toutes sortes de résistances. Mais quand son amour triomphe de nous, alors Dieu peut être plein de joie de cette relation qu'il a rétabli, de la réconciliation que lui a opérée. Et alors à ce moment-là, nous aussi, nous entrons dans la joie du pardon, la joie du salut, la joie de ce que Dieu nous ait fait grâce, tout simplement. Parce que la force et la joie sont dans sa demeure à lui. Elles ne viennent pas de nous. Sur la terre, ce sont des joies éphémères c'est des feux de paille. Ce ne sont pas des joies qui demeurent. Mais auprès du Seigneur, la force et la joie demeurent. Toujours dans la présence de Dieu, il y a la manifestation de la joie. Et lorsqu'enfin nous cédons à Dieu et que nous entrons dans la communion de son amour, nous découvrons que le lieu de sa présence est rempli de joie. C'est exprimé aussi de plusieurs façons dans les prophètes. Je lis seulement Psaume chapitre 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Vous saviez ça? Qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu? Qu'il y a des délices éternelles à sa droite? Par sa résurrection d'entre les morts, le Seigneur Jésus a été le premier à goûter les délices de la droite de Dieu. C'est cette parole du psaume est reprise dans la prédication des actes des apôtres au sujet de la résurrection et de l'élévation du Seigneur Jésus, qui, il est écrit justement, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À sa résurrection et son élévation, il est entré dans la joie qui se trouve auprès de Dieu. Il a commencé à goûter les délices éternelles. Et en répandant le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, 10 jours après s'être assis à la droite de Dieu, il a permis que les disciples aussi se réjouissent en Dieu. Encore un autre prophète, pour changer des grands prophètes, j'avais cité Sophonie, je vous citerai maintenant Habacuc, ou Habacuc, comme on prononce, chapitre 3, verset 18. Alors que de sombres jours s'annoncent, en fait, voilà, Habacuc est chargé d'annoncer aussi les jugements de Dieu. Et après avoir annoncé ces jours, ce jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, il dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Nous pouvons vraiment nous réjouir en Dieu parce qu'il est le Dieu de notre salut. Et la joie qui lui est naturelle, qui participe de sa nature et de la vie éternelle, eh bien, nous y accédons lorsqu'il nous sauve de nos péchés, lorsqu'il nous sauve de notre rébellion. Et nous pouvons commencer à en jouir personnellement par la présence du Saint-Esprit en nous. La joie du Seigneur accompagne les membres du corps de Christ, alors même que le trouble peut se manifester autour de nous. La joie du Seigneur demeure, et nous sommes appelés aussi par l'apôtre à la rechercher, à la cultiver. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, dit l'apôtre aux Philippiens, et il insiste au chapitre 4. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Exactement, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que c'est dans le Seigneur que se trouve cette joie, c'est dans son œuvre à lui, c'est dans sa nature à lui. Et nous pouvons donc nous réjouir en lui. Je terminerai avec la parole de l'apôtre Pierre. Au chapitre 1. Bien sûr, lorsque nous avons appris à connaître Jésus, lorsque nous avons appris à apprécier son amour, lorsque nous l'avons reçu dans nos cœurs. Vous, dit-il, qui l'aimez sans l'avoir vu. Est-ce que vous avez vu Jésus, vous ? Moi, je n'ai pas vu Jésus. Je n'ai pas vu, bien sûr, devant moi, mais je n'ai pas vu non plus Jésus en vision. Je n'ai jamais vu Jésus de cette manière. Mais je connais Jésus par l'Évangile. Je l'ai vu à l'œuvre dans l'Évangile. Je l'ai entendu dès mon enfance, le message de Jésus. Et grâce à cela, je peux l'aimer. J'aime Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus ? Alors, si vous aimez Jésus, sans l'avoir vu, si vous croyez en lui sans le voir encore, vous vous réjouirez d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Une foi qui est éprouvée dans ce monde, une foi qui doit résister à tous les assauts de l'ennemi, aux ruses de notre propre cœur qui cherche à contourner les vérités du Seigneur. Mais si vous demeurez dans la foi, si vous approfondissez votre foi, vous obtiendrez le salut de vos âmes. Et c'est ça qui fait réellement, par anticipation, votre joie, une joie ineffable et glorieuse, parce que Dieu sauve vos âmes. Dieu est le Dieu du salut. La joie, c'est celle du salut qu'il nous accorde, parce qu'il s'est fait une joie de venir nous chercher là où nous étions perdus. Et parce que Jésus a préféré plutôt de garder le privilège d'être le bien-aimé de Dieu dans le ciel, Jésus a préféré venir vers nous, se confronter à notre péché, à nos résistances, et offrir le sacrifice réparateur pour toutes nos fautes. Et Jésus a triomphé, Jésus a réussi dans sa mission. C'est pourquoi nous avons maintenant la possibilité d'être dans la joie. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, le Saint-Esprit est répandu, et si Jésus a annoncé ces choses, il a dit que Dieu donnait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen.